Poids Nu. Toute cette semaine, Émilie Chaudet rencontre Éric Hazan. Ce soir, pas un Français comme les autres.
Bonsoir Éric Hazan.
Bonsoir.
Hier, nous avons parlé des débuts de la fabrique, de ce désir que vous avez eu de créer un espace physique, la maison d'édition et littéraire, les livres, où pourrait s'exprimer une certaine manière de penser la politique. Alors, nous allons continuer tout au long de la semaine à évoquer les réflexions et les engagements, essentiellement politiques, qui sont les vôtres. Mais aujourd'hui, nous allons revenir bien en arrière dans votre histoire. Vous avez souvent parlé de votre jeunesse liée à vos engagements, au début de vos engagements politiques. Mais vous avez très peu parlé de votre enfance. Vous y consacrez cependant quelques lignes dans le livre que vous avez écrit et publié en 2016, Une traversée de Paris. Lorsque vous nous faites passer au 14 de la rue de l'Abbé de l'Épée, là où vous êtes né en juillet 1936, 3 ans avant la Seconde Guerre mondiale, premier bouleversement de votre vie, votre premier souvenir d'enfance, écrivez-vous, c'est un ami de vos parents en uniforme qui vient vous embrasser dans votre lit. Vous avez 3 ans. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce souvenir ?
Oh, il ne représente rien de spécial. Mais si je me dis quel est mon premier souvenir, c'est celui-là, voilà. C'est cet ami, mes parents, en bleu, je crois, en uniforme bleu horizon, qui allait partir...
C'était en 1939
En septembre 39, oui. Donc j'avais 3 ans.
Vous aviez conscience à ce moment-là que... C'était le début de la guerre ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, la conscience, je l'ai prise en juillet 40, quand toute la famille, c'est-à-dire mon père, ma mère, ma grand-mère et moi, nous sommes embarqués dans la traction avant noire, comme au cinéma, et que nous avons pris la route de Marseille en juillet 40. Marseille parce que mon père avait une sœur, là, qui était mariée à un dentiste. Elle nous a accueillis, cette sœur. Et on est resté chez elle un petit moment. Là, mon père, il a montré que c'était vraiment un dégourdi. Parce que, au bout de très peu de temps, il a rebondi. Il était éditeur, avant-guerre.
Aux éditions de Cluny ?
Oui, il avait fondé les éditions de Cluny. Et donc, il savait a priori pas faire tellement grand-chose d'autre. Et là, il a créé, il a fondé à Marseille, en fin 40, un atelier, un petit atelier de fabrication de bonbons. Les bonbons qui étaient fabriqués avec du miel de Guinée. Le miel de Guinée est fait par des araignées. Et ça marchait très bien parce qu'il n'y avait plus rien. Donc ces bonbons se vendaient très bien et ce petit atelier est devenu un grand atelier où il y avait, je ne sais pas, il me semble me souvenir qu'il y avait bien une quinzaine de personnes qui fabriquaient ces bonbons. Et ça nous a permis de gagner suffisamment d'argent pour vivre le reste de la guerre sans travailler.
Elle était à Marseille, cette usine ?
Oui, rue Neuve-Sainte-Catherine, une rue qui est... Parallèle au quai, au Vieux-Port, parallèle, tout près à portée de lance-pierre du Vieux-Port. Ça a marché si bien que ça nous a permis de vivre les dernières années de la guerre, les plus dangereuses, et de passer à travers. Parce que, il le dit très bien, Raoul Hilberg, l'auteur de La destruction des Juifs d'Europe. Livre indispensable, il le dit, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui avaient de l'argent, dans l'ensemble, statistiquement. Ceux qui s'en sont sortis, les Juifs qui s'en sont sortis dans des pays comme la France, ou la Hollande, ou autres, c'est ceux qui avaient des sous, ceux qui pouvaient arriver à se cacher, sans travailler, sans apparaître. Alors que les pauvres juifs qui arrivaient de Pologne, casquetiers, fourreurs, qui se retrouvaient à Belleville, ceux-là, ils ont été massacrés. Ils ne pouvaient pas s'en sortir. Ils ont été massacrés, ils se sont tous retrouvés à Auschwitz. Nous, mon père a gagné de l'argent avec les bonbons, si bien que lorsque les Allemands ont envahi la zone libre, les auditeurs le savent, ça, qu'en novembre 1942... les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, et à ce moment-là, les Allemands ont envahi la zone libre, dite libre, la zone de Vichy, quoi, au sud. Et à ce moment-là, c'est devenu très mauvais. Donc nous sommes partis du côté où ça allait moins mal, c'est chez les Italiens. Les Italiens avaient occupé à ce moment-là, les Allemands avaient tout occupé, mais les Italiens s'étaient gardés un petit bout qui correspond grosso modo aux zones maritimes. Et les Italiens, les Juifs, ils s'en foutaient, hein, complètement. Les soldats italiens en 1942, ils sentaient bien que c'était pas leur affaire, quoi, hein, d'aller chercher les Juifs. Il y avait des lois antisémites, fascistes, mussoliniennes, mais elles étaient peut-être appliquées à Rome, mais certainement pas là où on était, c'est-à-dire à Nice et à Antibes. Donc on a fini la guerre là. Il a pu acheter, mon père, il a pu acheter une maison à Antibes, où nous avons vécu les dernières années en autarcie. Alors j'allais pas à l'école, bien sûr. J'étais... J'apprenais dans les livres, mes parents achetaient des bouquins scolaires, on regardait un peu. Enfin, mon souvenir, c'est que j'ai jamais travaillé. Et donc, j'ai eu une éducation exactement celle que décrit Rancière dans Le Maître Ignorant. Dans Le Maître Ignorant, Rancière, il raconte l'histoire d'un type qui s'appelait Jacotot, qui en 1818 s'est retrouvé en exil à Louvain, chargé d'apprendre le français à des étudiants, à des élèves hollandais. Eux, ils ne savaient pas le français, lui, il ne savait pas le hollandais. Et il a trouvé une version bilingue du Télémaque de Fénelon. Et avec ça, sans faire aucun enseignement, eh bien, à la fin, ses élèves, ils savaient parfaitement le français. Ben, moi, c'est un peu comme ça, quoi. J'ai pas été à l'école. Et quand je suis arrivé à Paris, à la Libération en 1946, j'avais 10 ans. J'ai dû entrer au lycée Montaigne en... Il y avait la 7e à l'époque, c'était le CM2, quoi, la 7e. J'en savais deux fois plus que les autres. J'avais jamais été à l'école, j'en savais deux fois plus que les autres. Et cette avance, elle m'est restée pendant toutes mes études secondaires.
Grâce à qui, grâce à quoi, vous en saviez plus que les
autres?
Ben,
grâce à ce mode de non-enseignement, de non-abrutissement, de laisser un esprit pas plus brillant qu'un autre, hein, les intelligences sont toutes égales, hein, un esprit comme un autre, si on lui donne les capacités d'apprendre par lui tout seul, il apprend par lui tout seul.
Quelle était la place du livre dans votre enfance pendant la guerre? Puisque votre père avait dû arrêter ses activités d'éditeur pendant toute cette période, est-ce qu'il y avait encore des livres et des discussions sur les livres chez vous à ce moment-là? Est-ce que c'est un univers dans lequel vous avez
baigné?
Des
livres, il y en avait, oui.
Il y avait quoi?
Je me rappelle qu'à Antibes, il y avait une grande bibliothèque et des livres qui devaient venir de Paris. Je pense que mon père s'était peut-être fait envoyer depuis Paris, au moment où c'était encore possible, des cartons de livres. Je ne sais pas bien. Mais enfin, il y avait des livres, oui. Il y avait des livres. Et on parlait de littérature. Oui.
Vous parliez de quoi?
Proust et compagnie.
Proust, c'est un auteur qui a marqué vos parents, votre père en particulier?
Oui, oui. Il parlait de Proust, il parlait de Dostoïevski.
Comment est-ce qu'ils ont atterri en France? Et quand et comment est-ce qu'ils se sont rencontrés?
D'abord, ils étaient cousins. Ensuite, ils se sont retrouvés tous les deux dans les années 20 à Paris à faire leurs études supérieures. Mon père avait fait ses études secondaires à Paris, il avait été envoyé en France. Ils se sont donc retrouvés tous les deux à faire des études dans les années 20 et voilà comment ça s'est fait. Mon père, juif égyptien, français langue maternelle, prestige de la France. Les juifs égyptiens, ils étaient français de cœur depuis très longtemps, depuis Napoléon. Une vieille histoire. Donc mon père, voilà. Et ma mère, pourquoi? Je pense un peu pareil. Hein. Ma mère est une famille juive roumaine. Je crois que mon grand-père, que j'ai jamais connu, je crois que chez lui, il parlait le français. Mon grand-père, il s'est engagé dans l'armée française en 14. Père de ma mère. Engagé dans, dans, dans l'armée française. Je crois que c'était dans la marine qui était. Enfin bref. Donc des gens très francophiles. Hein. La France était encore, au Proche-Orient, une puissance de grand prestige. Un pays de grand prestige.
Ils se sont toujours connus.
Quand ils étaient cousins petits, pas, je ne sais pas très bien. Ils ne racontaient pas. Hein. C'est une famille où on ne racontait rien du tout. Je sais très peu de choses de leur enfance. Très peu de choses.
Quand vous nous parlez de vos parents, donc qui se connaissaient depuis très longtemps, très liés depuis le début, y compris par le sang, on a l'image de deux personnes qui ont toujours tout fait ensemble, qui ont même travaillé ensemble dans l'édition.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils étaient inséparables.
Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que vous avez eu du mal à vous faire une place, vous, parmi eux ?
Oui et non. Oui, oui, c'est vrai qu'ils ne laissaient pas beaucoup de place d'autres personnes que ce couple. Ce couple était assez fermé sur lui-même. Enfin, d'un autre côté, comme j'étais un instrument de promotion sociale, donc j'étais un personnage important à cet égard. Comme être humain, oui, mais comme objet de promotion sociale, oui, oui, à coup sûr.
Et alors, vous, petit, donc vous dites que vous n'alliez pas à l'école. À quoi ressemblaient vos journées ? Qu'est-ce que vous lisiez ? Qu'est-ce que vous voyiez ? Vous deviez vous cacher ? Donc, qu'est-ce que ça impliquait dans votre quotidien d'enfant ?
Se cacher, je pense à Antibes, où j'ai vraiment passé beaucoup de mois. On ne se cachait pas vraiment. Les voisins savaient très bien qui on était. Enfin, on n'allait pas, on leur racontait pas qui on était, pourquoi on était là, mais ils savaient bien. Et aucun d'entre eux ne nous a dénoncés. Mes parents avaient fait un trou dans le grillage qui nous séparait de la propriété d'une vieille dame, vieille demoiselle, fille d'un général de la guerre de 14, avec laquelle on n'avait pas de relation. Mais il m'avait dit, si jamais les Allemands arrivent dans la nuit, tu files par ce trou et tu vas la trouver. Avec l'idée qu'une fille de général de la guerre de 14 n'allait pas donner aux Allemands un petit garçon qui se réfugiait chez elle. Voilà. Ils ont été assez bien à cette époque, mes parents. Ils ont transformé la guerre, les Allemands, la résistance, tout ça, en une espèce de... J'en garde le souvenir d'un jeu de gendarmes et voleurs, et non pas d'un épisode terrifiant. J'avais pas peur du tout. D'ailleurs, je n'ai jamais manqué de rien. J'ai jamais eu faim. J'avais toujours à manger. Je garde pas une mauvaise... Bizarrement, paradoxalement, je ne garde pas du tout un mauvais souvenir de la guerre. J'étais très content.
Quelle image vous en gardez ? C'est quoi l'image qui vous reste aujourd'hui de cette période-là, de votre enfance ?
Comment on arrivait à vivre avec nos lapins, nos poules, leurs œufs, les pommes de terre, les olives de nos oliviers, les figues de nos figuiers qu'on faisait sécher pour l'hiver. C'est ça le souvenir que j'ai. Comment on arrivait ? Comment on arrive à vivre en autarcie, à peu près complète ? Quelque chose d'amusant pour un gamin.
Vous étiez avec vos parents et votre sœur ?
Non, ma sœur est née à la Libération.
Donc vous étiez juste enfant unique pendant la guerre avec vos parents ?
Oui.
En autarcie, est-ce que ça a favorisé une certaine forme de communication, de rapprochement avec eux ?
Je vous dis, la période, ils ne m'ont pas embêté parce que je pense, je ne vais pas penser à leur place, mais il me semble qu'ils se disaient, bon allez, on ne sait pas où on sera la semaine prochaine, peut-être dans les wagons, donc foutons-lui la paix. Ce qui était tout à fait différent de leur attitude quand je suis arrivé au lycée, d'abord Montaigne, puis Louis-le-Grand.
Vous dites, Éric Hazan, de cette période de guerre, que s'il y a une époque où être juif a pu avoir un sens pour vous, c'est cette période.
Je dirais pas les choses comme ça. Je dirais, si vous me posez la question aujourd'hui, Hazan, est-ce que vous vous sentez juif ? Je dirais non et oui. Un grand non, je n'ai aucune éducation religieuse. Ça m'a été épargné, ça. Aucune éducation religieuse. Je ne sais même pas les dates des fêtes juives. Ce sont mes amis arabes qui me souhaitent Hana Tova. Je ne sais même pas les dates des fêtes et à quoi elles correspondent. Je ne sais rien de cette religion. Je ne mets jamais les pieds dans une synagogue. La culture juive...
Et vos parents étaient pareils aussi à ce
oui.
niveau-là?
Oui. Laïque. Irreligieux. C'était une question qui ne se posait même pas. On n'en parlait jamais. C'était une non-question. Je pense que... la culture juive, la cuisine juive, les blagues juives... Bon, tout ça, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc, non, pas énormément de côté, j'ai rien à voir avec être juif. En revanche, le fait, pendant des années qui sont quand même des années de formation, entre 4 et 10 ans, hein, ce sont des années qui comptent, du moins c'est ce qu'on dit, là, d'avoir été obligé de me planquer, de parler à l'école, de ne pas être comme les autres enfants, parce que j'étais juif, et ça, mes parents me le disaient bien, ils m'expliquaient bien pourquoi je ne pouvais pas aller à l'école.
Comment ils vous le disaient, avec quel mot ?
Comme ça. Qu'il y avait des persécutions, que voilà. Non, ils étaient clairs, ils étaient pas mal, il me semble qu'ils ont été très bien à cette époque. Et donc, ça, quand je me souviens, enfin, évidemment que ça m'a marqué profondément, donc ça fait que je ne suis pas un Français, je ne me sens pas un Français comme les autres. Là, le côté juif, c'est un souvenir dont je suis emprunt. Donc, est-ce que je suis juif bof, français, non, parisien.
C'est-à-dire ?
Eh bien, je suis un parisien, voilà. Qu'est-ce que vous êtes ? Est-ce qu'il faut vraiment que je dise qu'est-ce que je suis ? Est-ce qu'il faut vraiment que je donne une identité ? Oui. Ben alors, parisien. Clairement, je suis un habitant de cette ville, un amoureux de cette ville, et je souffre en voyant tout le mal qu'on lui fait.
Vous dites que de votre judéité que vous en êtes emprunt, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire en fait ?
Ce souvenir des années entre 4 et 10 ans, c'est pas quelque chose qu'on peut effacer, c'est quelque chose d'ineffaçable. Ça fait que fondamentalement... Je sens bien que je suis un Français pas comme les autres. Pas comme si j'étais auvergnat.
Quand vous réfléchissez, comme vous le faites au sein de la fabrique aujourd'hui, à l'antisémitisme, notamment, je pense, au livre que vous avez publié avec Alain Badiou, « L'antisémitisme partout », quand vous réfléchissez à cette question, est-ce que vous repensez à cette période de votre vie ? Est-ce qu'il y a un lien ?
Non, du moins pas clair. Non, l'antisémitisme en France, l'antisémitisme aujourd'hui, je crois que sous ce mot, on recouvre des réalités qui sont différentes. Enfin, disons deux réalités, une petite et une grande. La petite réalité, c'est ce qui reste de l'antisémitisme traditionnel des années 30. Un antisémitisme, disons, de la droite catholique de province, pour aller vite. Un antisémitisme dont on a trouvé, je pense, des traces dans la Manif pour tous. Ils s'en défendraient certainement, mais si on grattait un peu, on en trouverait de l'antisémitisme chez ces gens-là. Mais ça, c'est, au fond, c'est en grande perte de vitesse. Par rapport à ce que c'était dans les années 30. C'était vraiment un courant très important, évidemment. Tout le monde le sait. Ça, c'est la petite partie. Il y a la grande partie de ce qu'on appelle l'antisémitisme et qui n'en est pas. Je veux dire, les difficultés d'existence en France, entre ce que j'appelle les Arabes, c'est-à-dire les immigrés algériens et Afrique du Nord, et leurs enfants. Ceux-là, ils ont des problèmes avec les juifs français. Mais ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est un antagonisme politique dévoyé. C'est-à-dire que c'est une espèce de syllogisme. Les Juifs israéliens persécutent les Palestiniens. Bon. Les Palestiniens sont nos frères. Donc, les Juifs en Israël persécutent nos frères. Et les Juifs français sont solidaires des Juifs israéliens.
Donc, c'est la pensée que vous prêtez à l'antisémite d'aujourd'hui.
Par procuration, les Juifs français persécutent nos frères. Donc, voilà. Ce qu'ils ne voient pas, évidemment, c'est que ce qu'ils appellent, eux, les Juifs français, ce sont des organisations qui ne représentent rien du tout. Je pense, je ne sais pas, moi, le CRIF, Conseil représentatif, représentatif de quoi ? Ce sont des représentants autoproclamés qui représentent que dalle. Je crois que les Juifs français, dans l'ensemble, ils ont à peu près, par rapport à ce qui se passe à la question palestinienne, ils ont à peu près les mêmes opinions que les Français tout court, que les Français non-juifs. D'autre part, il y a beaucoup de Juifs français qui sont absolument pas solidaires de la politique menée par l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Beaucoup, beaucoup. Et qui le disent et qui s'expriment. Et ça, finalement, les jeunes là qui ont un sentiment d'hostilité vis-à-vis des Juifs, ils ne le savent pas. Et s'ils ne le savent pas, c'est qu'on fait en sorte qu'ils ne le sachent pas. C'est-à-dire que tous les médias...
Certains jeunes, en tout cas. On ne peut pas généraliser...
Non, certains jeunes, certains jeunes. Ceux-là qui... Bon, finalement, les médias font l'inverse de ce qu'il faudrait faire pour résoudre cette question, qui ne serait pas très compliquée à résoudre.
Vous dites, dans ce livre d'entretien qui a été publié aux Prairies Ordinaires, Faire Mouvement, livre d'entretien avec Mathieu Pot-Bonneville, vous dites de votre famille qu'ils étaient les bons représentants de la bourgeoisie juive laïque francisée de gauche. Comment vous y êtes-vous construit, vous, au sein de cette famille ?
Politiquement, je me suis construit en sortant de cette famille. Parce que dans cette famille, c'était vraiment... Ils étaient racistes.
Envers qui ?
Les Arabes. Ma mère, fallait l'entendre. Hein. Ma mère, elle disait, les Arabes, ils sont voleurs, menteurs, et ils comprennent que la force.
Vous, enfant, qu'est-ce que vous ressentiez quand vous entendiez ça ?
Je ne me rappelle plus. Enfin, à un moment donné, ça m'est devenu intolérable.
À quel âge, à peu près ?
Je peux le situer à peu près exactement. En seconde. En seconde, on a 15 ans. C'est là que j'ai eu des camarades de lycée communistes. Et ceux-là, je dirais jamais assez tout ce que je leur dois. La reconnaissance que j'ai pour eux, avec une bonne distance de temps, mais la reconnaissance que je leur garde de m'avoir permis de sortir du milieu familial.
On va en parler plus en détail demain. Mais en attendant, quand on parle de votre famille et de cette volonté que vous aviez d'en sortir, est-ce que vous aviez, pendant votre enfance, une figure qui vous servait de modèle ?
Non, pas du tout.
Même imaginaire, issu de livres ?
Non.
Il n'y avait pas un homme que vous rêviez d'être ?
Non. Du moins, je ne me souviens pas.
Et alors, vous parliez de du racisme qui était celui de votre mère et votre père dans tout ça ?
Il ne s'exprimait pas dans des termes aussi vifs, mais il en pensait pas moins. Ils étaient à la fois des immigrés, parce qu'ils ont été naturalisés en 46, hein. C'était des immigrés et des bourgeois. En général, c'est deux mots qui ne vont pas ensemble, mais là, ils étaient les deux. Et ils avaient les poncifs dans la tête de la bourgeoisie qui rêvait d'être, au fond. Mon père, il aurait vraiment... Son vœu le plus cher, c'était de devenir un vrai bourgeois français.
Il y est parvenu ?
D'une certaine façon, oui. Mais pas autant qu'il l'aurait souhaité. Je pense que J'étais pour lui un objet de promotion sociale. Quand j'ai été nommé chirurgien des hôpitaux de Paris, il a acheté 6 exemplaires du journal officiel. J'étais pour lui le levier de propulsion vers la bourgeoisie française normale. Quand j'allais à vélo à l'hôpital, il me disait, un chirurgien des hôpitaux de Paris, ça va à l'hôpital en Jaguar avec un chauffeur, ça va pas à l'hôpital à vélo.
Comment vous réagissiez à ça ?
Je rigolais.
C'est étrange pour un éditeur à la tête des éditions Azan, qui publiait des livres d'art, qui côtoyait des artistes de l'époque, de projeter autant sur son fils ce désir d'ascension sociale.
Je crois qu'il doutait de lui. Il n'avait pas une grande opinion de lui. Il pensait que... Ça, c'est très famille juive, ça, hein, d'espérer que ses enfants feront mieux que vous-même. Je crois. Enfin, c'est ce qu'on dit. Hein. Je ne connais pas tellement de familles juives. Enfin, c'est un lieu commun.
Ça vous a pesé, ça, cette attente ?
Ça ne m'a pas pesé. Ça a beaucoup contribué à me pousser vers la médecine, alors que je n'étais pas du tout destiné dans ma tête à ça. Pas du tout.
Vous étiez destiné à quoi ? Vous
vouliez dans ma tête, à faire comme mes camarades de classe, comme Marc Auger, comme Maurice Aymard, qui était le successeur de Brodel à la Maison des Sciences de l'Homme, comme tous ses amis de ma classe, comme Changeux, l'homme hormonal. Oh, c'était une classe assez brillante.
Quelle classe ?
À Louis-le-Grand, on était ensemble en troisième, seconde, première, avec les gens que je viens de citer. Faire Normal Sup, et la Grègue, et voilà. D'histoire. C'était à ça, dans ma tête, que je me destinais. Et c'est mon père qui m'a détourné de cette voie qui était une voie tout à fait normale pour me pousser vers ce qu'il lui considérait comme un vrai métier, c'est-à-dire la médecine.
Eh bien, nous verrons cela en détail demain. Merci, Eric Azan.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Émilie Chaudet avec Eric Azan. À voix nue, réalisation Olivier Guérin, prise de son François Rivalan, coordination Claire Poinsignon. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.